Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir ou bonjour. Et nous aurons évidemment une pensée ce matin pour Frédéric Mitterrand. Bienvenue sur Europe 1 de 9h à 9h30 pour l'heure des pros et jusqu'à 10h30 sur CNews. Il incarnait ce que longtemps la France a conservé de plus précieux, des grandes eaux de Versailles jusqu'à la pyramide du Louvre, un certain art de vivre à la française, mélange d'intelligence et de distance. Il était Mitterrand par le nom, qui du Panthéon, un jour de mai 81, jusqu'au jardin de Jarnac, marqua si profondément le pays qu'il fallait que Frédéric, fils de Robert et neveu de Tonton, s'en affranchisse. Il illustrait un monde ancien quand la culture dominait, quand la littérature prévalait, quand l'imposture disparaissait. Frédéric Mitterrand est mort et tous ceux qui l'ont connu ont ce matin du chagrin. Il était venu sur ce plateau il y a un an pour évoquer sa maladie. Il fut écrivain, journaliste, animateur, ministre, dialoguiste, metteur en scène, comme si la vie était trop courte. Quand on a tous les dons, il était drôle, brillant, sincère, mais aussi traversé par une mélancolie, celle du temps qui passe quand arrive le dernier virage avant la ligne droite qui mène on ne sait où. Une pluie d'hommages, une pluie d'étoiles étoiles accompagne depuis hier soir l'annonce de son décès. Frédéric Mitterrand est mort, puisse-t-il reposer en paix et vivre encore parmi nous, puisque nous le savons, il faut croire aux forces de l'esprit. Il est 9h01, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La lutte contre le trafic de drogue se passe aussi sur Internet. C'est pour cette raison que Gérald Darmanin a lancé la création de Cyberpatrouille. Il a adressé une note à tous les préfets hier. Selon le journaliste police-justice Denis Trocero, le problème, c'est que les trafiquants développent en permanence de nouvelles méthodes.
Ces entreprises de stupes cherchent à se diversifier. Et donc, quand elles se sentent un peu coincées sur le terrain, elles tentent de s'adapter. Et en l'occurrence, donc, elles développent donc des plateformes qui sont... Bon, UberSheets, ça commence à exister, ça existe déjà depuis un moment. Hein, ça avait été mis en place pendant le Covid, pendant la période de confinement.
Pour la première fois, les États-Unis déposent une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. On peut y voir un revirement de Washington face à son allié Israël. Ce projet de résolution sera soumis au vote à 14h, heure française. Et puis aujourd'hui commence la 30e édition du SIDAction. Et cette année encore, le groupe Canal+ s'engage aux côtés de l'association pour soutenir la lutte contre le VIH. Vous pouvez faire un don par téléphone en composant le 110 par SMS au 92-110 et sur Internet sur le site www.sidaction.org. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci, Chana Lousteau. Et passez un excellent week-end. Nous sommes ce matin avec Eugénie Bastier, avec Éric Revel, avec Joachim Le Floch, Imad, avec Georges Fenech et évidemment avec Gauthier Lebret. Je vous ai écouté ce matin parler d'Olivier Véran. Manifestement, c'est une information qui vous a intéressé.
Ah, je dois dire que ces déclarations dans Le Parisien, oui, m'interloquent.
Il a le droit d'être médecin esthétique.
Ah, mais il peut faire ce qu'il veut. Le problème, c'est toujours pareil. C'est le décalage entre la parole et les actes.
C'est-à-dire quel décalage ?
Parce que quand il était ministre de la Santé, il parlait de la pénurie de médecins, notamment dans son secteur à lui.
Mais il a envie de gagner de l'argent.
Voilà, c'est ça. Il a envie de gagner de l'argent.
Il a envie de gagner de l'argent, monsieur Véran. Voilà.
Il est chirurgien esthétique, mais il précise, je ne toucherai ni à des pénis, ni à des fessiers, et je serai très loin des prothèses mammaires. C'est ce qu'il dit dans les colonnes du Parisien, puisqu'il va dans une clinique des Champs-Élysées spécialisée dans les liposuctions, la phalloplastie, l'augmentation du pénis et les augmentations mammaires.
Bon, vous savez que la première opération au monde, c'est la liposuction. La première opération. C'est un feuilleton et on en parle régulièrement. Ce sont ces auditions à l'Assemblée nationale avec la commission d'enquête. Alors, vous allez... On a écouté hier soir quelques passages. Ce qui s'est passé est absolument sidérant. Sidérant. Et même Mme Dati a beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid parce qu'on peut le perdre lorsqu'on est interrogé de la manière dont elle a été interrogée. Mais avant cela, Thomas Ménage, qui est député du Rassemblement national, Ménager, Thomas Ménager, a demandé à ce que nos excellents amis de Yann Barthès et Quotidien soient entendus, ce qui est la moindre des choses, parce qu'il se vantait de ne pas inviter les gens du Rassemblement National. Écoutez, monsieur Ménager.
Nous avons depuis plusieurs semaines auditionné des chaînes, des journalistes qui ont tous confirmé, notamment C8 et CNews, qu'ils invitaient la totalité de la classe politique, l'ensemble des couleurs politiques. Et nous n'avions pour le moment pas encore interrogé les seuls qui ont affirmé publiquement refuser d'inviter l'ensemble de la classe politique, notamment en refusant d'inviter le Rassemblement national, ce qui est le cas de M. Barthès et de M. Belver. Ils l'ont même réaffirmé il y a encore quelques jours en face d'un ministre de la République qui les a félicités, M. Olivier Véran. Et donc, il semblait logique, avant de clôturer les travaux de cette commission d'enquête, d'inviter les seuls qui semblent porter atteinte au pluralisme.
Il ne faut jamais être arrogant et jamais faire preuve de morgue, parce qu'on est parfois puni. Et si Quotidien est auditionné, c'est parce que M. Belver, un jour, à Sud Radio, a parlé comme vous allez l'entendre.
Déjà, vous suivez Zemmour dans le Quotidien ?
Non, on ne l'a jamais reçu. Je pense qu'on ne le recevra jamais.
Pourquoi ?
Parce qu'on ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite.
Aucun.
Aucun.
Vous n'avez jamais reçu Marine Le Pen ?
Jamais. Enfin, bon, le petit journal à l'époque de la présidentielle, de la première présidentielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait été reçue. Mais lors de la dernière campagne, on n'a reçu aucune personnalité.
Vous pouvez vous reprocher que ce n'est pas très démocratique ?
Bon, on n'est pas un service public, hein, vous le savez. On est sur une chaîne privée, donc on fait un petit peu ce qu'on veut.
Vous voyez cette morgue, cette... j'allais dire cette bêtise aussi de parler comme ça, qu'il le fasse, pourquoi pas qu'il le dise et qu'il s'en vante. Il est puni. Et c'est sans doute ce qui...
On verra.
Il est puni, oui, ils vont être entendus.
Très heureux de se retrouver devant la commission d'enquête.
Oui.
Et c'est aussi de la faute, on en parlait à l'instant, d'Olivier Véran. Parce que quand il est revenu sur le plateau de Quotidien après avoir été limogé du gouvernement, il est arrivé sur Quotidien et il leur a dit bravo, vous êtes les derniers
à mettre
des digues, à mettre des murs avec le Rassemblement National et à ne pas les recevoir. Et si on tirait le fil plus loin, ça voulait dire qu'Olivier Véran, il voulait
Gauthier
aucun micro... ne soit ouvert au Rassemblement National sur les plateaux.
Eugénie Bastier.
Non, moi je pense que tout ce qui se passe autour de CNews et la décision de l'ARCOM va se retourner de toute façon à plus ou moins brève échéance contre les médias, en tout cas qui font preuve d'une absence de pluralisme envers la droite et qui sont hégémoniquement de gauche, à savoir le service public et effectivement Quotidien. Ça va leur retomber dessus. Et moi ces auditions, j'ai vraiment l'impression que la France est l'URSS.
Non, mais on va les écouter tout à l'heure.
C'est du soviétisme médiatique. D'avoir des auditions comme ça.
Je suis d'accord avec vous, mais
dans
alors.
Quel pays est-on ?
Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je vous propose qu'on les voit d'abord et qu'on commente ensuite. Évidemment. Alors, pour M. Barthès, je vais dire, c'est très ennuyeux, parce qu'il faut qu'il lui mette un prompteur.
Je vous ai vu hier, vous m'avez fait beaucoup.
Non, mais il faut qu'il lui mette un prompteur, parce qu'il n'a jamais parlé sans prompteur. Il n'a jamais parlé sans oreillette. Donc, ça va être quand même difficile pour lui. Ça, je pense que c'est un souci. Thomas Ménager, retour du boomerang.
Nous savons pertinemment que cette commission d'enquête a été lancée par l'extrême gauche pour salir C8, CNews. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un retour de boomerang pour ceux qui cherchent à attaquer C8 et CNews, puisque au final, les seuls qui affirment refuser d'inviter l'ensemble de la classe politique, c'est TMC, c'est Quotidien et M. Barthès. Et lors des auditions, l'ensemble des dirigeants de C8 et CNews ont bien entendu confirmé le fait que l'ensemble de la classe politique, LFI compris, était bien représentée sur les chaînes du groupe Canal. Et il y a bien entendu un possible retour de boomerang pour ceux qui donnent des leçons de morale et considèrent être les détenteurs de la vérité et de la bien-pensance. Et donc, ça sera l'objectif aussi de cette commission d'enquête et des questions que nous poserons à M. Barthès et M. Belver.
Bon, on verra donc si M. Barthès dit Jeff Panaclock s'en sort bien devant cette audition dans quelques jours. Alors, en revanche, là où vous avez raison, on va écouter maintenant, je rappelle que le rapporteur est M. Saint-Toul, je rappelle que le président est Quentin Bataillon, qui est beaucoup intervenu hier d'ailleurs pour recadrer parfois M. Saint-Toul, et vous allez voir le premier passage lorsque M. Saint-Toul demande à Mme Dati, votre première interview en tant que ministre de la Culture, vous l'avez faite, dans les médias Bolloré, ce qui est faux puisqu'elle était à France Inter. Mais bon,
c'est incroyable.
Ouais, c'est assez sidérant d'ailleurs. Bon, écoutez cet échange.
Et quand bien même.
Je m'interroge sur le fait que vos deux premiers entretiens, ou quasiment, aient été accordés au JDD et à CNews.
Ma première interview a été donnée sur France Inter. Ben, si, parce que vous dites avec beaucoup d'étonnement que j'étais sur les chaînes du groupe Bolloré. Et je crois que ça n'est pas interdit d'être sur les chaînes du groupe Bolloré. J'ai la tutelle des médias, l'audiovisuel public. Et évidemment, j'ai aussi la responsabilité du pluralisme, de la transparence, de la probité, de l'éthique pour l'ensemble du paysage audiovisuel français. Soit vous me soupçonnez, soit vous m'accusez, monsieur le rapporteur. C'est pas digne d'un député, je vous le dis. Comme quand on s'attaque à une journaliste qui n'a jamais été prise en défaut aujourd'hui. Je vous le dis, ça c'est ma conviction personnelle, parce que parfois ça va trop loin.
Il n'y a pas d'insinuation, simplement je pose des questions et je cherche à avoir des faits. Mais je poursuis pour vous demander des faits, madame la ministre. Et encore une fois, je suis, à mon avis, seul juge de l'opportunité de ces questions. Avez-vous échangé avec monsieur Bolloré, ou avec messieurs Bolloré, Vincent Bolloré, Yannick Bolloré ou Arnaud Puyfontaine au sujet des chaînes du groupe Canal+, avant ou après votre nomination rue de Valois?
Je n'ai pas échangé avec monsieur Bolloré.
Ni avec monsieur Puyfontaine.
Ni avec monsieur de Puyfontaine, mais je peux vous dire que je reçois l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, public et privé. Les rendez-vous se poursuivent les uns après les autres. J'ai reçu des patrons de chaîne, j'ai reçu des producteurs, je reçois des artistes et ça continue. Et d'ailleurs, demain, je reçois les dirigeants de l'audiovisuel public et la semaine prochaine, je reçois des dirigeants de l'audiovisuel privé. C'est mon rôle, c'est ma mission. Je suis ministre de tous les Français et encore une fois, je n'opposerai pas les médias privés et les médias publics. J'assume totalement de rencontrer l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel.
Nous avons choisi de passer régulièrement ces séquences parce qu'elles en disent beaucoup sur le climat. Vous parliez de soviétisme.
Oui, non, vous savez, j'ai vu récemment la très bonne pièce d'Anouilh, Pauvre Bitos.
Oui.
Et M. Saint-Toul me fait penser au personnage de Pauvre Bitos. Vous savez, il joue Robespierre, en fait, et un magistrat procureur qui jouit dans le rôle du procureur parce que c'est le rôle de sa vie et que c'est un médiocre fondamental et qui jouit parce que c'est l'heure de gloire de sa vie d'être le procureur et le magistrat qui juge les autres. Eh bien, Saint-Toul, c'est Pauvre Bitos.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'est pas médiocre intellectuellement. C'est quand même un agrégé de lettres classiques. On pourrait attendre de lui une certaine hauteur. Mais c'est là qu'on voit les ravages de l'idéologie. Et comme vous dites, Eugénie, il aurait été un très bon procureur révolutionnaire à l'époque de la loi des suspects.
Mais là où vous avez raison, et c'est toujours un mystère que la vie, et on ne va pas faire de psychanalyse, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de M. Saint-Toul pour qu'il se plaise à jouer ce rôle-là? Moi ça m'interroge toujours. Qu'est-ce qui fait que tu peux être, avoir autant de passion triste, de rancœur, de ressentiment, et que tu sois animé par cet esprit de vengeance que tu devines chez lui, j'allais dire de méchanceté. Vous voyez, de choses comme cela qui te... Qu'est-ce qui fait que dans la vie, tu puisses être comme ça? Quelle déception as-tu?
Surtout quand on prétend
incarner le bien et
pourrait dans l'histoire, c'est ça le paradoxe.
Moi, ça m'interroge toujours parce que c'est la patte humaine qui nous intéresse.
C'est lui qui a traité Olivier Dussopt d'assassin dans l'hémicycle.
Deuxième passage avec Rassi Chidadati qui est interrogé cette fois-ci sur la façon... dont elle aurait été nommée avec, pourquoi pas, des entrevues entre le président Macron, entre Vincent Bolloré, et où elle serait au centre de ces débats. Écoutez.
Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier? J'entends par d'autres canaux, par d'autres moyens, que l'article du Monde qui a pu être consacré.
Je n'étais pas ministre de la Culture.
Ce n'était pas ma question. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît.
Je n'étais pas ministre de la Culture, donc je n'étais pas dans l'agenda ni présidentiel, ni ministériel. Voilà.
Je vais me permettre de vous rappeler que vous avez prêté serment et que je vous ai posé une question précise. Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier par d'autres moyens que l'existence d'un article de presse du Monde sur le sujet?
Je n'ai aucune connaissance des rencontres du président de la République avec les personnes qu'il souhaite rencontrer.
Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination?
Ça devient très personnel. Non, mais ça devient très personnel, monsieur le rapporteur. Je prends aussi à témoin les députés. Moi, je veux bien. Mais là, vous allez trop loin, monsieur le rapporteur. Je vous le dis. Voilà. Non, ce sont des questions qui soupçonnent des choses. Voilà. Donc moi, j'ai prêté serment, je réponds clairement. Vous m'auditionnez comme ministre de la Culture, je réponds à ces questions. Là, je vais vous dire, la croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Donc, vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur, vous mettez en cause ma capacité, vous mettez en cause ma compétence. Je ne pourrai pas être nommée uniquement, simplement, je serai l'objet d'un contrat entre deux hommes pour que je puisse exercer une fonction. Non mais je vous pose la question et je prends à témoin les parlementaires. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un se rencontre en disant il faut la prendre ou pas? Vous mettez en... Non, monsieur le rapporteur. Moi, je suis une responsable politique, engagée politiquement. J'ai fait mes preuves politiquement, j'ai une légitimité. Vous souhaitez la mettre en cause depuis le début de cette audition? Je n'accepte pas. À chaque fois, ça va trop loin. Voilà. Donc moi aussi, j'ai le droit d'avoir, aussi d'être absolument pas contente de ce type de questions. Parce que le soupçon n'est pas acceptable. Dites-moi pourquoi il suffirait que deux hommes parlent de moi pour pouvoir me nommer? Pourquoi? Quelle est votre idée derrière la tête, monsieur le rapporteur? Ça serait quoi? Ils auraient quelque chose qu'ils auraient conclu ensemble et que je serais le prix de ce contrat?
Non, écoutez, ça va...
Ça... C'est pas acceptable. Je vous réponds, ça n'est pas acceptable.
On a entendu la voix de Quentin Bataillon et je vous montrerai tout à l'heure, à la fin de cette séquence, combien il a été présent, combien il a recadré, combien lui-même était ennuyé de ce qui se passait. Mais pour le moment, restons avec M. Saint-Toul, qui a tweeté d'ailleurs hier en fin d'après-midi. Les ministres d'Emmanuel Macron ne supportent pas de rendre des comptes au Parlement. Poser des questions, c'est briser l'entre-soi. Pas de chance pour Rachida Dati. Elle avait en face d'elle un insoumis. C'est saisissant, c'est hallucinant. Mais je pense que c'est contre-productif et c'est très intéressant d'ailleurs de voir ces séquences, parce que les gens se rendent compte qui est qui. Dernier passage, c'est sur l'attribution des fréquences, avec une question qui est posée et qui se transforme évidemment par une question qui vise Vincent Bolloré.
Mais il est obsédé, c'est pas possible.
Je rappelle à notre commission que Olivier Schramek et Marcel Rogemont ont fait état, ils ont fait part de leurs doutes quant à la régularité de l'attribution des autorisations en 2012 et qu'il est parfaitement légitime qu'on puisse aujourd'hui formuler des questions sur la procédure et sur les intentions et sur l'action du gouvernement éventuellement en direction du régulateur dans ce sens. Est-ce qu'Emmanuel Macron ou Gabriel Attal vous ont demandé à un moment ou un autre de préserver les autorisations du groupe Bolloré?
C'est une commission d'enquête contre M. Bolloré. C'est sur M. Bolloré. Enfin, je m'interroge. Non, mais vous savez, moi je voulais vous dire très clairement les choses. Je suis ministre de la Culture, je suis ministre de la République et de tous les Français. Je vous dis simplement, vous imaginez un seul instant un président de la République ou un premier. Vous avez posé la question, j'ai le droit de vous répondre. Je vous réponds. Je dis simplement, je suis une ministre de la République. Je suis engagée en politique depuis très longtemps, je veux vous dire. Donc je connais l'engagement politique. Je sais ce qu'est être engagé politiquement, comme parlementaire et comme ministre. Je suis la ministre de tous les Français. Il y a un président de la République et un premier ministre. Ce sont des institutions. Vous imaginez qu'on puisse se commettre à ce genre de choses? Voilà. Donc je vous réponds. J'ai une mission très claire. Je vous ai énoncé mes missions quand je suis arrivée en introduction. Au moment où vous mettiez en doute et ma compétence et ma légitimité, puisque vous indiquiez que c'était sans doute au détour d'un rendez-vous entre deux personnalités que j'aurais été peut-être le fruit d'un contrat. Voilà. Pour être ministre. Ça n'est pas le cas. Je vous dis simplement que je respecte le régulateur. Le président de l'ARCOM n'a jamais eu ni pression, ni influence sur quoi que ce soit. Voilà, je vous le dis très clairement. Il a des prérogatives et des missions très claires, notamment celle d'attribuer des autorisations. Nous n'y sommes pas mêlés. Il fait ça en toute indépendance. Je n'ai eu aucune demande formulée de qui que ce soit pour favoriser qui que ce soit. Parce que je vais vous dire, monsieur le député, vous semblez l'oublier. Si c'était le cas, ça serait du pénal. Voilà. Donc je vous le dis. Donc vous me soupçonnez d'une infraction pénale. Voilà, je vous le dis aussi clairement et aussi directement.
C'est une commission d'enquête contre Vincent Bolloré. Elle a trouvé la phrase qui résume cette commission d'enquête.
Moi, je trouve que cette commission d'enquête, dont il faut rappeler que c'est LFI qui est à l'origine, il a demandé. C'est pour ça qu'ils ont Ils ont le rôle de...
Mais l'Assemblée nationale laisse faire comme
mais
ça.
L'Assemblée
elle ne peut rien faire.
Il y a, comme on l'appelle, un droit de tirage. Bon, ouais. Les oppositions qui ont le droit à demander une fois par an une commission d'enquête. Ça a été fait pour LFI. Moi, je trouve qu'il y a un vent mauvais, vraiment, qui souffle sur notre démocratie quand on voit ce genre de commission d'enquête qui se transforme en attaque ad nominem contre Rachida Dati, des procès d'intention, de la suspicion. On n'est plus dans une commission... Je n'ai pas le souvenir, moi, d'une commission d'enquête aussi orientée, aussi détestable, j'emploie le terme, et qui se transforme en procès inquisitoire contre des personnes. Et je pense que, finalement, voyez-vous, cette commission d'enquête aura peut-être du bon, parce que bat les masques. On voit bien ce qui est en train de se passer, et j'attends avec beaucoup d'intérêt l'audition de Yann Barthès. Il va bien falloir qu'il s'explique sur ce qu'il représente le pluralisme pour lui. Donc je crois que cette commission d'enquête met à jour finalement toute l'hypocrisie de ceux qui ont voulu cette commission d'enquête.
Il faut quand même dire à nos téléspectateurs que c'est M. Saint-Toul qui va écrire le rapport.
Oui, mais...
Donc le rapport est déjà écrit avant même les auditions. Mais ça sera intéressant de le voir face à Yann Barthès, effectivement, M. Saint-Toul, s'il a le même ton, inquisiteur, etc.
Je vous répète, je pense que M. Saint-Toul s'est décrédibilisé dans sa démarche. Elle n'est pas habile, sa démarche, puisqu'elle est caricaturale.
Et puis il y a un mélange grossière, la démarche, là, hier. Et puis, bien que son obsession, c'est Vincent Bolloré, notre groupe.
Et puis même... Le sous-texte, lorsqu'il parle à une femme, expliquer qu'une femme est nommée parce que deux hommes parlent ensemble, il y a quelque chose aussi, l'ordre du machisme ou de la misogynie, qui n'aura échappé, je pense, à personne. Quentin Bataillon, c'est le président.
Qui préside donc, bien.
Et qui a été vraiment, on ne le voit pas forcément dans tous ses extraits, c'est pourquoi j'ai voulu vraiment qu'on voit comment il est intervenu, comment il tente de recadrer, parce que je vous disais tout à l'heure, que fait l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, elle ne fait pas grand-chose, elle laisse faire bien sûr, mais son président a été présent.
Quelle est la nouveauté de vos vues au ministère? Quelle décision politique vous pourriez prendre que Mme Abdoulmalak n'aurait pas été en mesure de prendre?
Juste pour reclarifier bien sûr les débats sur ce point-là, Madame la Ministre, cette commission d'enquête ne concerne effectivement que le contrôle, l'attribution, le contenu de la TNT, donc vos réponses doivent se limiter à cet objet de la commission. Vous étiez hier au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation qui avait un champ beaucoup plus large, mais l'ensemble de nos questions et vos réponses sont limitées, donc je confirme que si cette question est posée, elle se limite à notre commission.
Donc... Pour correspondre à la demande du président, je reformule. Quelle est la nouveauté de vos vues au ministère concernant la TNT et quelle décision politique pouvez-vous prendre que Mme Abdoulmalak n'aurait pas été en mesure de prendre concernant le renouvellement notamment des autorisations de la TNT?
Si vous avez des états d'âme concernant Mme Abdoulmalak, je ne suis pas concernée. Je suis un ministre de la République avec des missions politiques très précises. Ma personne peut vous déplaire, ma nomination peut vous déplaire, ça n'est pas le sens et l'objet de cette commission.
Et ici, l'exécutif rend des comptes au Parlement. Voilà, simplement. Donc n'inversons pas l'ordre des choses. Et vous voyez, je ne fais que poser des...
Et je confirme bien qu'effectivement l'exécutif rend des comptes, mais cette commission d'enquête a un objet précis, il faut qu'on s'en tienne, et nous en éloignons de plus en plus depuis quelques questions. Allez-y, monsieur le rapporteur.
Non, je n'ai formulé que des questions qui évoquaient le sujet de la TNT, des autorisations, donc je ne m'éloigne pas.
Bon, donc vous voyez, ça a été affleuré, boucheté tout le temps. Dernier passage de cette commission, c'est Roch-Olivier Maistre, qui a été très clair, le président de l'ARCOM, qui dit on ne va pas ficher des journalistes. D'ailleurs, c'est extrêmement compliqué. Éric Revel. À droite ou à gauche?
Mais à votre avis. Je vais réfléchir. En fait, ça dépend sur quel plan.
Mais bien sûr,
c'est le problème.
Mais bien sûr, comme
voilà.
Ça le regarde.
Non, d'abord.
Oui, mais je veux dire, comme vous n'êtes pas militant, j'imagine que vous vous retrouvez parfois avec des gens qui ont des positions progressistes, parfois des gens qui ont des positions libérales, parfois des gens qui ont des positions conservatrices, ce qui est la vérité pour tout le monde.
Ce qui est plus agaçant dans le petit microcosme qui est le nôtre journalistique, oui. Pascal, c'est que. Et ça, c'est vraiment une antienne maintenant, c'est que quand vous n'êtes pas catalogué à gauche ou sur tous les sujets à gauche ou bien pensant, en fait, le seul argument, c'est de dire vous êtes de droite extrême. Vous voyez ? Et ça, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. C'est à la fois une insulte et c'est un argument qui porte plus du tout.
Il n'y aura plus de catalogage. Olivier.
Justement, on va l'écouter.
Ça, c'est l'important de cette audition.
Oui, mais justement, on va l'écouter. En fait.
C'est rassurant.
On va l'écouter.
Deux principes en tête. Le premier, C'est bien évidemment, comme le souligne la décision du Conseil d'État, le respect plein et entier de la liberté éditoriale des médias. Donc le régulateur ne mettra pas le doigt dans le choix des thèmes traités par les éditeurs, ni dans le choix des intervenants choisis par les éditeurs, qui relèvent de la liberté éditoriale de ces éditeurs. Ils doivent, dans ce cadre, bien évidemment, respecter la loi, mais c'est leur liberté et leur responsabilité en même temps. Donc je l'ai dit et je le redis devant votre commission, on ne transposera pas à l'ensemble des intervenants sur les plateaux de chaînes de télévision les obligations qui s'appliquent en matière de pluralisme politique. En matière de pluralisme politique, la loi dit explicitement que les médias audiovisuels doivent nous communiquer la liste des personnalités politiques qu'ils invitent, mentionnées en tant que telles dans la loi, et les temps de parole correspondants. On ne transposera pas ce modèle-là, et donc il n'est pas question, je l'ai dit, je le redis ici, de rentrer dans je ne sais quel catalogage, dans je ne sais quel fichage de l'ensemble des intervenants sur les plateaux de télévision pour les qualifier d'une sensibilité ou d'une couleur politique dans un sens ou dans un autre. Donc la liberté éditoriale des éditeurs sera respectée. Le Conseil d'État ne nous demande en aucune façon de rentrer dans cette voie de catalogage.
Bon, j'ai envie de dire, c'est pas de l'histoire.
La décision du Conseil d'État n'était pas aussi claire que ça.
Non.
Elle parlait, effectivement... Pour tenir compte du pluralisme, il fallait aussi intégrer les invités, les consultants, les chroniqueurs. Il y avait un vrai risque d'atteinte à la liberté d'expression.
Mais pardonnez-moi.
Là, on revient au droit positif.
Georges, pour une raison très simple, c'est que quand vous voyez la nouvelle composition du Conseil d'État, pardonnez-moi, là, c'est pas faire un procès d'intention, il y a un biais idéologique au Conseil d'État. Donc, évidemment, comme ils incarnent plutôt la gauche que la droite, ils ont envie d'écouter des gens de gauche et pas des gens de droite sur les plateaux. Mais le président de l'ARCOM fait vraiment une approche magnifique, professionnelle et bien recadrée pour ces enquêteurs.
Thomas Hill, puisque nous sommes déjà en retard à 9h25, Thomas Hill d'Europe 1, que je salue. Bonjour.
Salut,
cher
Pascal.
Thomas.
Bonjour Pascal, on se retrouve à 11h.
Exactement, et je vois que vous portez comme moi
bien sûr.
L'insigne pour le site d'action qui commence aujourd'hui.
Bonne émission avec à vous. Renaud dans un instant. Merci Pascal.
Merci, il est 9h26, on va marquer une pause. Et puis on parlera évidemment de l'actualité, de la discrimination capillaire notamment, qui me paraît un sujet extrêmement intéressant, de ce qui s'est passé hier au Sénat avec l'affaire CETA.
Oui.
Ça, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez également.
Bien sûr.
À tout de suite. Christophe Baratti est avec nous ce matin. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Les choristes ont 20 ans et le film est sorti en 2004. Il va ressortir en avril. Le 10 avril, il va ressortir. C'est la même version. Il n'y a pas des scènes en plus, parfois, des scènes que vous n'auriez pas mises dans un premier montage. Vous n'avez pas été tenté de...
Je crois que j'ai rien enlevé de frappant, hein. Je me souviens pas, mais non, en tout cas, c'est la même version. C'est une version, évidemment, remasterisée en 4K. Le son aussi est réédité. Et ça fera l'objet aussi d'une ressortie de la musique en double vinyle pour les amateurs, collecteurs. Et puis se rappeler aussi que, il y a 20 ans maintenant, évidemment, le petit Jean-Baptiste Monnier a bien grandi. Gérard Jugnot est comme moi. On a un peu vieilli. Mais,
Et Jacques Perrin est là, c'est vrai.
Jacques Perrin, évidemment, mon oncle chéri qui avait produit le film. Nous a quittés il y a 2 ans de manière très brutale, mais enfin, l'ouverture avec lui dans le film, faut s'en rappeler, en chef d'orchestre, anoblissait quand même véritablement le propos. Et puis depuis, la musique, on devient un écoute-voix sur ton chemin, là, mais je me souviens encore, il y a un peu plus de 20 ans, donc j'habitais à Nières-sur-Seine, ville dont je suis natal, et j'écrivais, parce que j'avais pas d'auteur, moi, j'écrivais les musiques aussi avec Bruno Couleur, on a co-composé, j'écrivais Voix sur ton chemin, Caresse sur l'océan. Bon, c'était un petit de pièces comme ça, je pouvais pas imaginer, vous savez, c'était un peu, c'est joli, mais enfin, les paroles, c'est un peu limite quand même, dictionnaire de rimes, tout petit peu. Et j'imaginais pas que 2 ans après, je me retrouverais dans la salle des Oscars avec Beyoncé. Qui chanterait ça dans un français approximatif, mais je m'en foutais complètement, tellement pour moi c'était du délire. Et que même récemment, les amateurs de boîte de nuit peuvent entendre un titre par un jockey qui s'appelle Bennett, qui est numéro 1 dans les streamings, qui fait Voir sur ton chemin en version techno.
Alors, je vous interromps parce que Somaïa Labidi nous attend pour le rappel des titres et on va évidemment en parler ensemble, entre autres des choristes, de Frédéric Mitterrand bien sûr, et de toute l'actualité du jour. Somaïa.
Bilan de l'opération PlaceNet à Vénissieux, 59 interpellations, 31 kilos de drogue et plus de 58 000 euros saisis. Opération qui a nécessité la mobilisation de 110 fonctionnaires. Inauguration en grande pompe, Gérald Darmanin lance officiellement la CRS 83, compagnie de CRS dédiée aux violences urbaines et créée sur le modèle de la CRS 8. Au total, 4 de ces compagnies couvrent le territoire. Et puis, nouvelle réunion des 27 à Bruxelles. Les 27 qui veulent utiliser les avoirs gelés de la Russie pour armer l'Ukraine. Initiative qui devrait permettre de dégager entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an en faveur de Kiev.
Christophe Baratier est avec nous. C'est vrai, alors bon, les gens ne vous connaissent peut-être pas forcément, mais vous avez tous les talents.
Je me connais quand même.
Bon, vous êtes metteur en scène, mais vous avez tous les talents parce que vous étiez premier prix de conservatoire.
Premier prix de l'école normale de musique, oui, en guitare classique, oui, en 89, oui.
Oui, non, mais c'est...
Moi, j'ai appris la musique avant de lire les mots, en fait, donc ouais. C'est pour ça que la musique a toujours compté. Pardon, c'est une phrase un peu creuse. Bien sûr que ça compte. Mais non, je veux dire, par là, c'est que c'est vraiment des films sans musique. J'ai vraiment du mal. Parfois, même, j'en mets trop. Mais, comment dire, simplement aussi, j'ai fait une comédie musicale après, d'ailleurs.
Oui,
j'ai composé des morceaux. On a de nouvelles chansons. Mmh. On a fait chanter les adultes. Donc, c'était au Théâtre des Folies Bergères en 2017. Et depuis, ce spectacle a été repris tel quel au Canada, en Chine, à l'Opéra de Shanghai. Et puis, en ce moment, ça fait un carton en Espagne, puisque ça fait un an qu'il tient à Madrid et qu'il est full out, sold out, 6 mois à Barcelone.
Bon, et puis vous vieillissez parce que vous ne faites plus du tout de blagues au téléphone, donc généralement, vos amis, vous faites passer.
Il ne fallait pas me relancer là-dessus, donc Pascal, voilà, c'est les munitions qui attendent.
Bon, Frédéric Mitterrand, et c'est vrai que je vous propose de voir le sujet de Kylian Salé qui rappelle les grands moments de la vie de Frédéric Mitterrand.
Bonsoir. Jean-Luc Godard est bel et bien devenu une vache sacrée.
Frédéric Mitterrand est reconnaissable entre tous, avec son timbre de voix si particulier.
Je voyage dans un continent immense et mystérieux qui s'appelle le cinéma.
Né en 1947, c'est avant tout un passionné de cinéma, un monde qu'il découvre à 13 ans.
Les appartements des vedettes, les endroits où se trament tous les coups qui permettent de faire des films.
Frédéric Mitterrand achète son premier cinéma à 24 ans, puis une dizaine. Par la suite, il devient un homme de télévision, mais là aussi, son domaine de prédilection, c'est le 7e art. Il réalise également des documentaires historiques comme Mémoire d'exil en 1999.
Les Romanov sont venus du monde entier. Beaucoup ne se connaissaient pas.
Fasciné par le général de Gaulle, il soutient presque par obligation familiale son oncle François Mitterrand, mais en 2009, c'est dans un gouvernement de droite qu'il est nommé. Il devient ministre de la Culture de François Fillon et n'hésite pas à se mettre en scène.
Le slam est pour moi comme un cheval de Troie qui passe en contrebande 1000 moments des mois.
La vie de Frédéric Mitterrand, c'est aussi des polémiques pour son soutien à Roman Polanski, accusé de viol sur mineur en 2009, mais aussi pour son livre « La mauvaise vie », publié en 2005. Ses passages sur les relations tarifées avec de jeunes garçons thaïlandais ont suscité de nombreuses polémiques et poussent l'intellectuel à condamner la pédophilie et le tourisme sexuel. Personnalité complexe, Frédéric Mitterrand aura marqué pendant plusieurs décennies l'audiovisuel français.
Il y a une séquence que je passerai pas d'ailleurs de Marine Le Pen sur le plateau d'Yves Calvi lorsqu'il présentait C'est à vous, pas C'est à vous, ou c'est dans l'air, c'est dans l'air, où Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs hein, sur Frédéric Mitterrand et notamment sur La mauvaise vie qui était sortie. Il est venu il y a un an, pile, il était malade sur notre plateau, il portait une casquette et il avait parlé des hommes politiques d'aujourd'hui.
Premier problème, c'est que il n'y a plus autant de gens brillants pour faire de la politique. Ah. Pourquoi ? Parce qu'on gagne plus d'argent en faisant des affaires, on a moins de juges qui vous tombent sur le rable. Je veux dire, c'est un métier épouvantable. Hein, c'est un métier vraiment dangereux et épouvantable, qui détruit la vie familiale, qui détruit tout. Donc les gens les plus brillants, y en a dans la politique, mais moins qu'avant, et ils sont ailleurs.
Je crois que vous étiez sur le plateau
ce jour-là. À cette place, et il était là, et avec sa casquette, il nous avait beaucoup émus. Il nous avait présenté un livre.
Exactement, et il avait évoqué sa ressemblance avec François Mitterrand.
Je vous regarde à l'écran, je vous regarde et je découvre votre casquette sur ce plateau, et je vois que vous ressemblez de plus en plus à François Mitterrand.
Oui, c'est vrai, je lui ressemble. Et je m'aperçois d'ailleurs très souvent, dans certaines expressions, je ne suis pas un fanatique de me regarder à la télévision, mais de temps en temps je regarde. Je m'aperçois que j'ai des gestes comme lui, Par exemple, je fais toujours ça avec mes mains.
Ah, oui. Alors ça, c'est le geste emblématique, oui, celui-là, et le geste emblématique.
Mais j'ai pas copié, mais c'est comme ça. Oui. Et alors, vous allez dire que je suis très très orgueilleux. Mais non, je suis pas orgueilleux ni vaniteux, non. Mais je sais que dans beaucoup de domaines, j'ai les mêmes réactions que lui. Et je sais aussi que dans beaucoup de domaines, j'ai des intérêts qui sont proches de ceux qu'il avait. Et ça, je me rends compte de plus en plus avec le temps qui passe.
Voilà. Et puis, il avait évoqué à la fin de l'entretien, il était venu pour un livre effectivement sur Brad Pitt.
Oui.
Et à la fin de l'entretien, il avait évoqué sa maladie. Vous portez une casquette ?
Oui, je porte une casquette. Oui, je porte une casquette parce que je suis malade. Donc, je n'ai pas envie, moi, qu'on voit que je suis malade. Donc, je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette. Voilà. Mais ce n'est pas un signe d'impolitesse à votre égard, ni à l'égard de vos invités ou de vos chroniqueurs. C'est juste... Il y a un exemple formidable aujourd'hui, c'est ce que fait Florent Pagny. Je le trouve formidable, ce garçon. D'abord, comme artiste, je trouve quelqu'un de très remarquable. Et je trouve formidable qu'il dise les choses et qu'il place son combat comme il le fait.
Parmi toutes les réactions, une était attendue particulièrement, celle du président Sarkozy, puisqu'il a été, Frédéric Mitterrand a été son ministre durant 3 ans.
Je l'avais choisi comme ministre de la Culture et il m'avait fait une petite blague, puisqu'il avait cru bon, le pauvre, tellement enthousiaste. Et là où il est, je lui adresse une pensée très affectueuse. Figurez-vous qu'il m'avait annoncé sa nomination lui-même 24 heures avant que le gouvernement ne fût connu. Ce qui avait provoqué une belle polémique, comme le milieu politique français les adore. Je ne lui en avais pas voulu, parce que j'avais mis cela sous le compte de l'inexpérience et de l'enthousiasme. Parce que Frédéric était avant tout quelqu'un de cultivé et d'enthousiaste. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un quand il est tellement heureux d'être nommé.
Et puis, il a évoqué également les bons moments, les fous rires, peut-être aussi parfois les moins bons.
Nous avons connu des très bons moments, avec beaucoup de fous rires, parce qu'il adorait raconter des histoires, il adorait rire. C'était un homme profondément humain. On a connu aussi des moments plus difficiles. Je me souviens notamment de la polémique assez misérable à propos de son livre « Une mauvaise vie » que j'avais lu, à la différence de beaucoup de ceux qui l'avaient critiqué à l'époque. Car en plus de tous ses talents, Frédéric écrivait très bien.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur la disparition de Frédéric Mitterrand. Dans l'actualité, le Sénat a voté contre la ratification du CETA. Vous qui êtes un journaliste économique, il faut que vous nous expliquiez ce qu'est le CETA.
Oui, le CETA, c'est un traité de libre-échange signé avec le Canada. Donc ça permet d'exporter des produits agricoles et d'en importer. Alors, ce qui est très intéressant dans ce vote, alors certains y verront un petit côté élection européenne, mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis la crise agricole, je pense que les politiques, à l'initiative d'ailleurs du Parti communiste au Sénat, ont décidé de regarder de près ces traités. Alors c'est vrai qu'il y a des agriculteurs qui en profitent, mais c'est vrai aussi que tout ce qu'on va importer, notamment la viande canadienne, ne répond pas du tout aux mêmes normes que les nôtres.
Et on va le voir dans le sujet dans une seconde.
Mais juste, parce que là c'est un vrai sujet de débat, même si l'Assemblée nationale vote contre de nouveau le CETA, eh bien si la France ne notifie pas auprès de la Commission, ce traité sera quand même adopté au nom de la France. Ce qui est quand même absolument hallucinant.
Le rôle du Parlement.
Hallucinant.
Donc le vote ne sert à rien, c'est
non,
ce que vous me dites.
Non, si la France ne notifie pas que le Sénat et l'Assemblée ont voté contre le CETA, eh bien comme ce qui s'est passé à Chypre, ce traité sera acté notamment pour la France. Donc c'est
mais oui, même... mais la France peut notifier.
Alors, si elle notifie, oui, mais il y a eu un précédent. Chypre n'a jamais notifié le refus de ses parlements de voter contre le CETA.
Emmanuel Macron.
Exactement.
C'est pas contraignant pour Emmanuel Macron.
Non. Oui, mais Emmanuel Macron, il est pris on va lui demander quand même de justifier sa position s'il ne notifie pas, si le Parlement
bien sûr.
Vote contre deux fois.
Bien sûr.
Et vous mettez le doigt sur tout le problème.
Ben oui.
Qui va lui demander? Alors voyons le sujet. Non, c'est un peu complexe. J'espère que vous.
J'ai pas été clair.
Si, vous avez été très clair.
Moi, extrême. Compris,
comment?
J'ai compris, moi.
C'est un oui, non, mais contraignant. Mais vous avez été extrêmement clair, mais le mot CETA, je ne suis pas sûr que les uns et les autres connaissent exactement. Donc voyons le sujet, les agriculteurs devant le Sénat, c'était hier avec Mathilde Ibanez.
Les agriculteurs se sont rassemblés aux abords du Sénat pour s'opposer au traité CETA. Un accord de libre-échange controversé entre l'Union européenne et le Canada qui s'applique de façon provisoire depuis 7 ans. Mais pour les agriculteurs, cet accord économique et commercial global est une concurrence déloyale.
Je suis éleveur de viande bovine. Actuellement, tout le monde parle de souveraineté alimentaire, alors qu'on est en train de perdre des producteurs, perdre de la production. Voilà, et pendant ce temps-là, on continue à signer des divers accords de libre-échange pour pouvoir encore importer de la viande bovine, qui va certainement arriver à moins cher.
Les lentilles du Canada, elles sont traitées au glyphosate juste avant la récolte, pour faciliter la récolte. Pratique qui est strictement interdite en France. Donc ces accords ne protègent ni les paysans, ni les consommateurs.
Ce traité permet une baisse des droits de douane de plus de 90% pour les échanges de biens et de services entre l'Union européenne et le Canada. Le texte prévoit également une réduction des réglementations pour faciliter le commerce. Mais aussi, il permet aux entreprises européennes d'avoir accès au marché public canadien, y compris ceux des villes et des provinces. Adopté. Un traité rejeté par le Sénat dans un climat très tendu aujourd'hui. Le texte CETA passera ensuite à l'Assemblée nationale pour un nouveau vote qui, en 2019, avait été voté de justesse.
Joachim Le Floch Imad.
Ce vote, il n'aura sans doute pas, vous l'avez très bien expliqué, de conséquences politiques. Par contre, symboliquement, c'est extrêmement intéressant puisqu'on se rend compte que tous les grands dogmes sur lesquels Emmanuel Macron a été élu en 2017 sont en train de s'effondrer les uns après les autres. Ça a été le progrès comme religion révélée, ça a été l'identité heureuse, ça a été le doux commerce pacificateur. Et il y a clairement un changement de cycle qui est à l'œuvre là au niveau international. Certains pays l'ont compris comme les États-Unis, mais la France, encore une fois, a un train de retard. Dans les années 80, si vous voulez, vous aviez Reagan, Thatcher et la France à ce moment-là, et Élisée Mitterrand. Là, il y a clairement un retour de la protection de la chaîne internationale, mais on reste la zone économique la plus ouverte. On n'a toujours pas compris ce que c'était en Europe que la réciprocité. Et à ça, je pense qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'encore une fois, on ne va rien faire et ça n'aura pas de répercussions au niveau européen.
Oui, j'ajouterais, il y a une question économique, mais aussi une question écologique. Oui. On ne peut pas, comme Emmanuel Macron, faire des grands discours sur l'écologie et ouvrir des accords commerciaux qui, effectivement, sont anti-écologiques, puisqu'aller exporter des biens à l'autre bout de la planète et en faire venir à l'autre bout de la planète, alors qu'on a le plus grand marché du monde, qui est le marché européen, qui est à proximité géographique, c'est aussi une aberration.
L'agriculteur qui exporte, il y a des agriculteurs qui vivent de l'exportation.
Oui, mais pour exporter,
mais le localisme,
on privilégier la zone régionale de l'Union européenne avec la souveraineté.
Il peut faire preuve aussi de pragmatisme, et en plus il y a les élections européennes qui arrivent, donc il peut être vigilant à écouter le vote du Parlement. Quand est-ce le vote du Parlement?
Ça va passer après à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une date fixe. Oui. Mais Olivia Grégoire, ce matin, ministre des Entreprises, elle est très fâchée contre les sénateurs LR qui ont fait basculer, et donc ça sera peut-être suivi par les députés à l'Assemblée nationale d'Éric Ciotti. Mais donc la position du gouvernement, pour le moment, ce n'est pas du tout d'enterrer le CETA.
Initiative communiste. Ouais.
Oui. Et oui, vous avez raison, il y a eu une alliance entre l'extrême-gauche et les Républicains au Sénat.
C'est la question de la démocratie qui est au cœur de ça. Il ne peut pas y avoir de localisme au niveau européen. Et comme l'avait dit Jean-Claude Juncker, il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens.
Mais Christophe Baratier, ce qui est très bien dit dans le sujet quand même, parce que moi j'ai parlé beaucoup de la branche agricole qui est en grande souffrance chez nous, c'est que ça va quand même ouvrir des marchés, notamment publics. Allez-en, mais vous voyez, c'est jamais bon. Mais pour l'agriculture, évidemment que c'est une mauvaise chose, et on n'a pas envie de manger de la viande avec antibiotiques qui vient du Canada.
Christophe Baratier est avec nous, il est là parce que les choristes ressortent. 2004, ça avait fait 8 600 000 entrées. Évidemment, c'est difficile d'enchaîner après un tel succès. Il y a eu Faubourg 36, il y a eu La Nouvelle Guerre des Moutons, il y a eu Envole-moi. Moi, j'avais beaucoup aimé avec le fils de Victor Belmondo, qui est formidable. Victor Belmondo, alors s'appeler Belmondo, vouloir faire du cinéma, c'est quand même pas simple, et lui a trouvé un ton juste et un comédien qui, on espère, va faire carrière.
Parce qu'il a une génération d'ailleurs, parce que son père Paul s'était prêté un peu à la caméra.
Oui.
En faisant évidemment
d'autres choses. Et chez Lelouch, il jouait le rôle parfois de Jean-Paul Belmondo.
C'est ça, mais en même temps, Victor a hérité de quelque chose d'assez frappant, même physiquement par rapport à son grand-père, chose qui est frappant, mais surtout une décontraction. Et puis c'est quelqu'un qui a été bien élevé. Pardonne-moi de dire ça, mais c'est quelqu'un qui a été bien élevé. Ça fait du bien. C'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit « Ouais, je suis acteur, tu comprends ?» Pas du tout.
Il y en a comme ça, il y a des gens comme ça dans le métier.
Oui, il y en a quelques-uns.
Ah, qui ça?
Il y en a certains, vous savez, avec lequel Kassovitz est en train de s'expliquer à Hollywood, là, vous avez entendu parler de l'histoire, mais on sait Dagmawi qui était dans la haine. Oui. Bon, la réputation, je l'ai rencontré 2-3 fois à Los Angeles, où il s'est un petit peu... Tu comprends, la France était trop petit pour moi, il fallait que je voie plus large, bon, des phrases comme ça, mais en même temps, je vois clair dans tes yeux, enfin bon, c'était... Voilà, donc, Victor était...
Qu'est-ce que vous préparez en ce moment?
Alors, en ce moment, je prépare... nous avons la sortie, pardonnez-moi, je répète, des choristes, je vais être occupé un petit moment. Et le prochain projet est d'après une bande dessinée qui connaît un très gros succès en 10 albums, qui s'appelle Les Enfants de la Résistance, voilà, qui marche très très bien aux éditions Glénat. par deux auteurs belges avec qui voilà, j'ai écrit le scénario. On va se mettre en tournage sans doute en automne, et donc c'est une histoire. Alors évidemment, dès que je m'écarte de la Deuxième Guerre mondiale, moi, il faut que j'y revienne comme un élastique. Et là, donc, c'est l'histoire de trois petits garçons qui, pendant le premier jour de l'occupation, sont victimes d'une énorme injustice dans leur petit village du Jura et décident d'entrer, sans le savoir, en résistance. Et voilà, donc ça part sur des albums. On fait un premier film pour l'instant. Voilà.
Vous restez évidemment avec nous. On va recevoir Pascal Danel, qui est écrit. Alors, Pascal Danel, là, je vais.
Mais là, il est Manjaro, si j'ai pas
mal. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit. Vous vous souvenez de ça?
Bien sûr. Ouais.
J'ai le mal de mer, Pascal Danel, les neiges du Kilimandjaro, et puis la plage romantique. On aime bien recevoir de temps en temps. Ah ben voilà.
Magnifique.
Ça a 60 ans, hein.
Oui.
Et c'est intact. Je vais être obligé de vous remercier, petit scarabée.
Hein?
Ces petits scarabées.
Hein?
Très grand talent.
Ouais.
Quoique jeune.
Pourquoi quoique jeune? Comme si c'était un défaut. Vous savez, c'est un défaut qui passe vite, hein, la jeunesse, de toute façon.
Il a des lettres en plus, il a de l'esprit.
Oui.
Action, réaction, vous allez partir. Vous les revoyez, les comédiens, évidemment, entre vous, vous avez gardé des bons Berléans, Cadmerade.
Cadmerade, dont c'était le premier rôle au cinéma.
Oui.
Enfin, au cinéma sérieux, on va dire. Il n'y en a qu'un mort, c'est
Jean-Berléans.
Il faisait le gardien, et hélas, je dois dire qu'on a. Parmi les petits choristes du film.
Le petit Popinot, vous savez ce qu'il est devenu?
Oui, c'est le propre fils de Jacques Perrin.
Hein. Ben oui.
Maxence Perrin. Ben Maxence, il va très bien, il a 25 ans.
Ça serait bien de le voir.
Il continue un peu au cinéma entre deux cours de parapente, tout va bien.
Bon, on marque une pause. Merci, cher Gauthier. Et
vous
puis,
plaisir.
On parlera, alors personne n'est concerné par cela, mais par la discrimination capillaire également, dans la dernière partie.
Ah oui, moi, j'ai la même coupe de cheveux depuis que je suis né, donc.
Oui, je crois que vous êtes né avec une cravate. À tout de suite.
On disait ça de.
Il la revoit quand elle brillait.
Pascal Danel est avec nous. Bonjour, monsieur Danel, ça me fait plaisir. Bonjour, j'ai le mal de mer. Vous allez bien?
Ah oui, mais c'est une grande histoire.
Bon, on va parler évidemment de votre livre, mais alors, grand événement le 31 mars pour vous.
C'est un peu tôt.
Oui, un peu tôt, mais bon, vous avez changé de dizaine.
D'ailleurs, vous savez, je parlais assez fort parce que j'entends pas très bien.
Et
plutôt que de dire des bêtises, il vaut mieux prévenir. J'ai appelé mon marchand d'oreilles, il est malade.
Bon, vous chantez toujours.
Alors voilà, on va se débrouiller comme on peut.
Bon, vous chantez toujours en tout cas.
Oui.
Bon, ben oui. C'est ça qui est important, finalement.
Ah, vous l'avez, ce livre, ce fameux livre?
je l'ai.
C'est rien d'exceptionnel, mais bon, je voulais raconter un petit peu des choses. Les gens connaissent très peu de choses sur moi, et même moi, ils connaissent très peu.
Eh ben, on va en parler dans une seconde, Somaïa Labidi est avec nous, et puis on écoutera peut-être ces deux titres majeurs que toute la France connaît depuis toujours. La plage romantique, laissons la plage romantique, et les neiges du Kilimandjaro, même s'il n'y a plus de neige au Kilimandjaro, donc c'est ça qui est très ennuyeux.
Il y en aura toujours quand même, un petit peu.
Il y en aura dans notre cœur. Somaïa Labidi.
Rebondissement dans l'affaire du petit Grégory, la justice accepte des expertises complémentaires, expertises réclamées par les parents du garçon depuis plusieurs mois. Le 16 octobre 1984, le corps de leur fils âgé de 4 ans avait été retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne. Puis de réaction après le décès de Frédéric Mitterrand, ces légendaires bonsoirs vont nous manquer, a commenté Emmanuel Macron sur X. L'ancien ministre de la Culture et homme de télévision s'est éteint à l'âge de 76 ans hier à Paris des suites d'un cancer. Et puis un vote à l'issue incertaine. L'ONU examine aujourd'hui le projet de résolution américain mentionnant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Une première pour les États-Unis, synonyme d'un changement de ton envers son allié israélien.
Merci Somaïa et excellent week-end à vous. Je vous propose qu'on soit prudent quand même sur l'affaire Grégory. Hein, Georges Fenech, on va être prudent.
Mais il faut toujours garder une lueur d'espoir.
Oui.
Surtout qu'avec l'ADN d'aujourd'hui, tel qu'il est exploité, on peut peut-être avoir,
un
résultat.
Et on nous a fait le coup avec les cordelettes il y a quelques temps déjà.
Ça a tellement évolué. Avec la salive du timbre sur l'enveloppe.
Oui, donc moi je vous propose qu'on soit prudent. Oui. D'autant que quand même une sorte de vérité semble se dessiner.
Restons prudents, Pascal.
Oui. Bon, avant d'être avec nos invités, dans l'actualité, cette loi contre la discrimination capillaire, je trouve ça passionnant parce que le 28 mars prochain sera présenté devant les parlementaires un texte visant à lutter contre la discrimination capillaire, notamment dans le milieu professionnel.
Non, pardonnez-moi, je traduisais un peu ce que...
Bon, il sera inscrit dans la loi qu'il est impossible de ne pas embaucher une personne en raison de sa coupe. Et je trouve ça formidable. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, les droits individuels sont importants, les droits des individus sont importants. Mais c'est vrai qu'il y a des professions qui réclament une forme de neutralité. Par exemple, si moi, je suis journaliste et que j'arrive avec les cheveux rouges, bleus, etc., je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Pourquoi ? Parce que le téléspectateur, il va voir que mes cheveux, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même l'information.
Oui, mais donc, je crois que vous vous trompez sur ce que vise cette loi. Alors, effectivement, ce n'est pas les cheveux bleus ou rouges, etc. C'est une loi, en fait, woke, qui vient des États-Unis. Et en fait, ils veulent imiter les lois portées par les woke américains, notamment sur la discrimination capillaire des noirs américains. Et c'est une loi, et c'est essentiellement sur la question de la discrimination des cheveux des afro-américains, enfin, aux États-Unis, des afro-américains. Et en France, ils voudraient porter cette loi pour les gens qui ont une couleur de peau noire et qui ont des cheveux crépus, etc. Et c'est ça le fond de la loi, c'est pas les cheveux rouges, oranges ou bleus, c'est ça.
Et on voit le sujet peut-être et on en parle ensemble.
C'est ça qui visait. C'est vraiment pour moi l'américanisation du débat parce qu'ils copient des lois américaines.
C'est une étude de 2023 aux États-Unis qui disait que deux femmes noires sur trois devaient changer de coupe de cheveux lorsqu'elles
sont en
processus.
Oui, et cite Michelle Obama qui a dû se lisser les cheveux pendant 7 ans pendant qu'elle était.
Alors voyons le sujet parce que c'est effectivement une loi de l'époque.
Dans les rues de Paris, différentes coupes, couleurs ou textures de cheveux. Selon plusieurs études, certaines défavoriseraient un candidat à l'embauche.
Moi, j'ai choisi un emploi justement un peu par rapport à ça. Enfin, pas que, mais j'ai toujours voulu un travail où je pourrais me faire toutes les couleurs de cheveux et tous les piercings. Mais je sais que c'est pas le cas dans tous les emplois et c'est un problème.
Dans ce salon de coiffure, nombreux sont les clients qui freinent leurs envies à cause de leurs emplois.
On rencontre énormément de personnes chez nous qui sont, je dirais, presque frustrées par le fait d'être contraint de porter plutôt un style de coupe qu'une autre, parce que sur le domaine professionnel, on impose certaines coupes ou certaines façons de se coiffer.
Pour le député qui a proposé ce texte, la nécessité qu'il soit voté n'est pas anecdotique.
6 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux lisses. Et je vais vous dire, c'est une question sanitaire, puisque les hommes et les femmes qui utilisent des produits lissants, notamment les femmes, ont 3 fois plus de chances de développer un cancer de l'utérus ou 3 fois plus de chances de développer un fibrome que quelqu'un qui n'en utilise pas.
Si le texte est voté, la France serait le premier pays du monde à légiférer sur la discrimination capillaire.
Non mais enfin, il existe déjà 25 critères de discrimination en France interdits par la loi. Donc là, ils veulent en rajouter un 26e. Moi, je trouve que on est dans une espèce d'inflation normative, de frénésie victimaire, qui je trouve n'a pas de sens. Aujourd'hui, déjà, nous ne sommes pas les
États. Frénésie victimaire.
Oui, frénésie victimaire. Je suis désolée. Aujourd'hui, en France, déjà, la France n'est pas les États-Unis. Ici, ils ne citent que des études américaines et que des exemples américains, notamment l'exemple de Michelle Obama, qui effectivement dit qu'elle a dû se lisser les cheveux pendant X années quand elle était au pouvoir aux États-Unis. Mais c'est comme pour l'IVG aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire nos lois en fonction du climat américain sur tel ou tel sujet. Ça suffit maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités dans notre pays ? Pardon, mais on a un temps législatif limité. On a un déficit à 5,6% qui s'annonce. Est-ce qu'on va faire une loi sur la discrimination capillaire ? Je pense que les Français attendent autre chose dans leur écrasante majorité que ces délires sociétaux qui ne changeront pas objectivement la vie des personnes et qui vont créer des espèces d'embûches administratives, de contrôles liberticides. Et évidemment, faisons confiance au bon sens des gens plutôt que tout le temps passer par la loi pour réprimer sans arrêt les employeurs qui sont déjà accablés de normes.
Et ce qui est risible, c'est qu'on plaque les névroses américaines sur la France, alors même qu'on parle d'imaginaires qui sont profondément différents. Enfin, pardonnez-moi, mais la France avait un président du Sénat noir au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis avaient encore des lois de ségrégation ethnique avec les lois Jim Crow. Enfin, ça n'a absolument rien à voir, et au nom de cette mondialisation, de cette acculturation, importation de problèmes américains en France, on est en train d'ouvrir la voie à des dérives terribles.
Est-ce que le réalisateur que vous êtes, Christophe Baratier, est sensible à l'époque, et lorsque vous faites votre casting, vous vous dites, si vous voulez, pourquoi pas, des budgets, que votre casting épouse la diversité, notamment, parce que, ou même des thèmes, des sujets, qui sont parfois plus porteurs que d'autres, lorsque vous écrivez.
Il est évident qu'il n'y a aucune imposition, sauf en ce qui concerne maintenant les règles du CNC, donc du Centre National de la Cinématographie, qui impose qui vous donne du bonus en fait en retour de recettes si vous avez une équipe parfaitement à parité, ce que je trouve très bien d'ailleurs parce que nous avons maintenant les femmes étaient non seulement surtout maquilleuses, script, etc. Maintenant on en voit beaucoup dans les équipes, même des électros, des machinaux, donc je trouve ça très bien que nous soyons encouragés à faire ça. Maintenant en ce qui concerne les sujets, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus séditieux. C'est-à-dire que c'est dans un coin de sa tête, on se dit, par exemple, là, je crie sur un film sur la Seconde Guerre mondiale et on me pose déjà la question, mais pourquoi est-ce que dans la partie de football, il n'y a pas des filles qui jouent avec les garçons ? Là, je commence à me dire, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Donc, oui, mais enfin, en même temps, il faudrait. Si vous voulez, je peux mettre aussi un espion noir en Allemagne. Bon, mais ça va être très, très étrange. Donc, mais en tout cas, il est évident qu'il y a toujours dans un coin de la tête, en ce moment, une manière de se dire, est-ce que ça. Je vais pas me faire engueuler là-dessus. C'est-à-dire que j'avais fait même dans La Guerre des Boutons une scène où un petit garçon arrivait, disait « Ah non, t'es pas contente la boursière ?» Réflexion de la chaîne, attention, remarque homophobe, alors que quand c'est dit par un crétin, on pourrait le comprendre.
Oui, bien sûr.
Par un imbécile dans le film, clairement, et qu'on met dans le rôle d'un imbécile qui a des propos homophobes, ça pose pas de problème, mais ça en pose toujours. Donc c'est vraiment quelque chose qui, dans un coin de nos têtes, et personne ne le dira vraiment. Mais on sait qu'il faut vivre avec.
Olivier Véran, on en a parlé tout à l'heure, médecin neurologue de formation, va se tourner vers la médecine esthétique. Il exercera un jour par semaine. Il a repris son mandat de député après avoir quitté le gouvernement, vous le savez. Et il a dit aux Parisiens, il m'a paru extrêmement compliqué de reprendre la neurologie au CHU. D'une part parce que la discipline a fortement évolué sur le plan thérapeutique. Et deux, je me suis très vite rendu compte, en discutant notamment avec quelques patients, que l'étiquette de ministre que j'ai sur le front perturbait la relation thérapeutique. Après, il dit c'est 15% de la population adulte française qui a recours à des soins de médecine esthétique et c'est quelque chose qui ne doit pas être dénigré. Il y a quand même un pourcentage de Français très important qui souffre. Donc, il a déclaré effectivement qu'il allait devenir chirurgien esthétique, peut-être parce que...
Ça gagne mieux.
Bah, mais on...
4000 euros par jour maximum, la chirurgie esthétique.
Maximum ou minimum ?
Maximum, on peut monter jusqu'à 4000 euros.
Oui, alors je peux vous dire que... Non. Ça peut être beaucoup plus que ça.
Par jour ? Oui, peut-être que c'est des chiffres français, je sais pas.
Mais il y a un célèbre chirurgien esthétique qui reçoit des clients du monde entier. Les jets privés se posent au Bourget et l'opération, elle n'est pas à 4000 euros. Hein. Elle n'est pas à 4000 euros. C'est vraiment une des disciplines de la médecine qui est le plus valorisée.
C'est pour ça qu'il va dans ça.
Bien évidemment. Bah, écoutez, on ne peut pas reprocher à quelqu'un, il fait ce qu'il veut. Il a quand même le droit s'il le veut. Ouais. Bon, l'affaire Grégory, un mot sur l'affaire Grégory. Vous disiez d'être prudent tout à l'heure. C'est une demande de nouvelle expertise et la famille et la justice a ordonné à la demande de la famille des expertises dans ce meurtre qui aura 40 ans. En novembre prochain.
Octobre.
Voyez, en octobre.
Le 16 octobre, ouais. 84.
Vous êtes...
Je suis un passionné.
Ah oui ?
Ah oui, mais... Ouais,
pourquoi ?
Ah, je ne sais pas, parce qu'il y a dans... Oh, c'est un peu une banalité, ce que je veux dire, mais parce qu'il y a évidemment tous ces rebondissements. Il y a aussi le lieu, cette histoire de Corbeau qui a précédé quand même le meurtre du petit garçon. Ce lieu avec ces trois familles tentaculaires dans lesquelles on compte à peu près 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes susceptibles de converger, d'être le ou les corbeaux. Et évidemment, ce qui s'est malheureusement passé par la suite, c'est-à-dire que jusqu'au meurtre de Bernard Laroche par le père de Grégory, et puis malheureusement récemment, le suicide de Jean-Michel Lambert.
Bien connu, le juge d'instruction.
Ouais, qui s'est suicidé dans des conditions quand même très violentes. Enfin, je veux dire,
avec un sac sur la tête.
Ouais, après avoir écrit. Donc à chaque fois, et puis c'est vrai qu'il y a toujours des avocats, ça me fait un peu plaisir parce qu'on revoit les mêmes personnes. Maintenant, je commence à prendre de l'âge, mais donc je vois la Kitane Sesma qui avait été le premier qui a confié la quête.
Maître Welzer.
Gérard Welzer qui est là, alors qui lui appelle à une prudence constante. Et attention avec lui, les parents, il ne faut pas dire des choses déplacées sur Bernard Laroche, évidemment, parce que pour lui, c'est un cas. Voilà, donc c'est une histoire sur laquelle on marche toujours quand même sur des œufs.
Alors voyons.
Après différents avocats, vous avez connu aussi Garot, non, j'imagine.
Bien sûr, l'avocat.
Oui, l'avocat, oui, bien sûr.
Voyons le sujet d'Augustin Donadieu.
Après 40 ans de mystère, sommes-nous sur le point d'identifier l'assassin du petit Grégory Villemain, retrouvé mort noyé, pieds et poings liés dans la Vologne, dans les Vosges, le 16 octobre 1984. Des expertises complémentaires ont été ordonnées par la justice à la demande de la famille du petit garçon. Des vérifications techniques et des expertises scientifiques qui pourraient permettre d'identifier enfin le meurtrier de l'enfant de 4 ans.
La famille a demandé des analyses d'ADN supplémentaires pour faire des rapprochements entre certaines personnes de la famille et les profils et les mélanges ADN que l'on a au dossier, ainsi que de l'audiométrie vocale.
De l'audiométrie vocale, en clair, une analyse pour tenter de définir une identité vocale de la voix du corbeau.
Compte tenu des progrès de la science, il y a une expertise de faisabilité qui a été ordonnée pour déterminer ce qu'il est possible de faire en termes de comparaison de voix avec les enregistrements du corbeau que l'on a au dossier.
Selon nos confrères d'RTL, de l'ADN a été prélevé durant l'enquête sur les cordelettes qui entouraient le corps de l'enfant, son anorak, son menton et même sur certains courriers du corbeau. Cet ADN sera comparé à celui de Michel Villemain, oncle du petit garçon, ainsi qu'à d'autres membres de la famille élargie.
Affaire qui passionne évidemment depuis 40 ans. Je sais que vous êtes passionné parfois par des faits divers. L'avion dont on a parlé l'autre jour avec Michel Chevalet, le fameux avion qui est disparu.
Le MH370.
Là, vous êtes incollable, vous savez tout.
Ah bah, obsédé, oui, bien sûr. L'aéronautique, oui, je connais très bien. Oui.
Vous êtes obsédé par cette histoire. Oui. Pascal Danel.
Oui.
J'ai mal de mer. J'ai mal de mer. Alors, c'est un livre d'entretien. Et je pense que les gens, effectivement, sont heureux de vous revoir parce que ils se souviennent de vous, ils vous connaissent. Et vous parlez de votre naissance et combien elle a été difficile. Ma naissance va se caractériser par deux mises en danger maximales. Vous êtes né le 31 mars 1944.
Oui, c'est encore toute une histoire parce qu'en fait, j'ai passé ma vie dans des pensionnats, des nourrices, etc. Et jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'étais né le 28 mars. Alors, j'ai toujours pas élucidé cette affaire, qui m'avait été racontée d'ailleurs par ma marraine, qui m'a gardé quand j'étais tout petit, que ma mère s'est dispersée, je ne sais où. Et elle m'a dit, mais moi, je t'affirme que t'es né le 28 mars. Et effectivement, dans les collèges et dans les nourrices, peut-être pas, mais dans les pensionnats, quand on me demandait mon nom et mon âge, évidemment, alors premièrement, c'était le 28 mars 44, c'est devenu le 31. J'ai jamais élucidé les...
Mais vous êtes peut-être un autre ?
Alors, en plus, j'avais pas le même nom.
On ne sait pas.
J'avais le nom de ma mère, Jean-Jacques Boutafouco, qui était retiré parce qu'à l'époque, il y avait une loi où c'était le père qui prédominait. Quand mon père m'a reconnu, puisqu'il n'était pas marié, bon, évidemment, ben, c'était pas simple. Quand mon père m'a reconnu, on a barré Boutafouco. Et on a mis Pascal au-dessus, avec un beau stylo à plume. Et quelques années plus tard, la loi a rechangé à nouveau. Et je m'appelle maintenant, mettez-vous à la place du gendarme. Jean-Jacques Pascal, nom d'usage, Pascal Boutafouco, dit Pascal Danel. Et le gendarme m'a dit, mais vous êtes qui, vous ?
Alors, bon, il y a ces deux titres, évidemment, que chacun connaît. Je voulais qu'on voit une archive de vous lorsque vous chantez... On va l'écouter. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait l'archive, mais on ne peut pas l'écouter. On ne peut pas la voir, me dit Marine Lançon. Ah, on la voit quand même. Alors, allons-y. Allons-y. Allons-y.
Ouf. Je veux t'aimer à mon idée.
Il y a un côté Gilbert Bécaud, d'ailleurs, et dans votre voix, et c'est souvent quelque chose...
Pas la première fois qu'on me le dit.
Oui, on vous a souvent rapproché.
Ça m'énerve toujours autant, d'ailleurs.
Oui, pourquoi ?
Ben, parce que moi, je trouve pas. Il y a peut-être une gestuelle ou une façon de placer les mots, les phrases, peut-être. Mais la voix, moi j'ai déjà essayé de comparer justement, puisque j'ai fait un hommage à Gilbert au Casino de Paris il y a quelques années, et un enregistrement, je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir. Il est bien meilleur que moi.
Bon, ces deux chansons, si vous voulez, qui sont les plus célèbres, La plage romantique, Kilimanjaro, vous les avez écrites et vous avez composé la musique.
Tout à fait. C'est malheureusement et heureusement en même temps, c'est ce qui me porte.
Oui.
Mais c'est aussi les arbres qui cachent la forêt. Et on a, dans ce métier, c'est assez compliqué de... Tu es un grand compositeur, tu fais des chansons formidables, t'en amènes une autre. Ah ben non. Mais tu dis alors donc qu'il y a un certain laps de temps où on a du talent, puis à un moment donné on a pu. Est-ce que ce ne serait pas les programmateurs par hasard ?
Ah, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est difficile, j'imagine, d'avoir deux tubes immenses comme cela, comme vous dites, l'arbre qui masque la forêt, oui. Cache la forêt, et avoir moins de succès avec d'autres chansons.
Ben, c'est-à-dire que oui et non, parce que les autres chansons, on les entend pas. Donc on peut pas tabler sur le fait qu'il y a succès ou pas. C'est ça le vrai problème. Moi, j'ai entendu quelqu'un sur une radio qui avait dit, qui est une directrice de la radio, qui avait dit, au-delà de 70, on ne passe pas. Et je pense qu'elle en a 75, elle.
Vous parlez de François Mitterrand également dans ce livre. Je me rends compte aujourd'hui que François était un ami, ne m'ayant jamais trahi. Je n'étais rien comparé à lui. Sa dimension intellectuelle, politique, relationnelle était imposante. Certes, je portais le prénom d'un de ses fils, qui était défunt très tôt, avec le chagrin illimité que cela comporte. Mais notre relation possédait sa propre force et nous nous enrichissions mutuellement, je crois, au détour de chaque conversation. Quand il était président de la République, régulièrement, vous le voyez ?
Ça, c'est encore quelque chose un peu spécial. Je l'ai connu bien avant qu'il soit... D'ailleurs, je ne savais pas qui c'était, donc c'était encore vite réglé. Lors d'un concert, on a été invité par François à boire un verre à la mairie le lendemain, vin d'honneur, et c'est enfin bon. Et il m'a dit « Quel âge avez-vous ?» Question un peu bizarre quand on nous rencontre. Alors je lui ai donné ce qu'il attendait, la date. Et il a dit à sa femme, « Nanou, tu vois, je te l'avais dit. » Et j'ai su bien après qu'il y avait une raison. Ben, la raison, c'est qu'il avait perdu un fils qui était né en 44, qui s'appelait Pascal. Donc il y a eu une espèce de... Je me suis accroché peut-être aussi à lui. Lui l'a senti. Et il n'y a jamais eu entre nous des choses politiques. C'est le bonhomme qui m'intéressait.
Chaque vendredi, vous le savez, nous allons voir notre ami Jacques Vendroux.
Ah. Où est-il ? Où est-il ?
On va l'appeler, Jacques Vendroux. Où est-il ? Bien sûr, puisque chaque vendredi, il est avec nous. Ah, on n'est pas connecté avec Jacques Vendroux, donc on peut évoquer à ce moment-là Brigitte Millot, puisque chaque vendredi, nous faisons également un tour d'horizon de ce que sera le week-end sur les antennes de C8 ou de CNews. Et Brigitte, à 10h30, comme tous les samedis, demain, nous parlera... de l'heure d'été. Je ne sais pas si vous êtes un fan de l'heure d'été ou pas, si vous aimez ce changement d'heure.
Ah, c'est quand ça ?
Dimanche.
C'est pas dimanche, c'est le 31.
C'est la semaine,
ah, ça va.
C'est la semaine suivante. Mais je ne sais pas si vous détestez ou si vous aimez l'heure d'été. Vous aimez l'heure d'été ?
Non, moi, ça me fatigue maintenant.
Mais oui, parce que vous êtes...
Non, bon. Ça fatigue, hein.
Non, mais ça fatigue.
Non, mais si.
Non, mais ça fatigue ceux qui se lèvent tôt, pour tout vous dire. Et nous qui sommes des lève-tôt, quand on est levé à 6h, 6h moins le quart, 5h30, ce qui est notre cas, ben, le 1er avril, on va se lever au quart de la nuit, un peu plus tôt. Et quand on se lève très tôt, on n'a pas envie de se lever plus tôt que très tôt.
C'est dire. Pas davantage de la soirée aussi.
Oui, non, justement. Oui. Donc vous aimez bien l'heure d'été ?
Ah oui, j'adore.
Bon, moi, je déteste l'heure d'été, mais bon, ça m'est personnel. Mais alors, il faut s'adapter, et Brigitte Millot nous dit comment s'adapter ?
Tout à coup, il faut avancer d'une heure. Mais ça veut dire que tout avance d'une heure. Donc le corps, il ne comprend plus rien.
Et ça a quoi comme impact ?
Le système digestif, tout ça. Alors ça va avoir des impacts sur à peu près toutes les fonctions du corps. Attention, ça n'a pas les mêmes impacts
sur tout le monde.
Chez tout le monde. Ça a beaucoup d'impact chez les tout petits, chez les nourrissons, où on sait que le cycle veille-sommeil, il est vraiment réglé par la lumière. Ça va avoir aussi beaucoup d'impact sur les travailleurs de nuit, qui eux aussi, tu vois, sont réglés.
Déjà déphasés.
Eux déjà les décaler, leur horloge.
D'accord.
Donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ça va avoir des impacts plus importants chez les adolescents et chez les couches tard en général, puisque tu vas encore perdre une heure de sommeil. Déjà que tu te couches tard, tu vas te coucher encore plus tard avec la lumière, etc. Et ça va avoir surtout des impacts assez forts qui peuvent durer parfois jusqu'à 20 jours, un mois, chez les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que les personnes âgées, Elles se couchent tous les soirs à la même heure, généralement, pas toutes, mais elles se couchent généralement tous les soirs à la même heure, se lèvent tous les matins à la même heure, prennent leur repas tous les jours à la même heure, prennent leurs médicaments tous les jours à la même heure. Donc là aussi, par exemple, un antihypertenseur, ça va tout décaler, tu vois.
Bon, je dois être une personne très âgée parce que la personne qu'elle a décrit à l'instant, c'est exactement moi. Quel âge ont les enfants, Eugénie ?
Les miens ?
Oui.
3 et presque 2 ans.
Et alors, ça va être difficile de leur changer les habitudes, coucher ou pas ?
Une heure, ça va.
Une heure, ça va.
Attrapera.
Bon, Jacques Vendroux, on le voit tous les vendredis. C'est un tour d'horizon de l'Olympisme qu'il nous propose. Je ne sais jamais où nous allons. Seule Marine Lançon est dans la confidence. Générique, Jacques Vendroux. La boxe.
Yoga.
Alors aujourd'hui, ça me paraît moins spectaculaire. L'autre jour, vous aviez un masque, c'était l'escrime. Je vous ai vu à la lutte. Et là, vous êtes d'accord. Manifestement dans un gymnase. Mais pour quel sport?
Une piscine.
Vous êtes dans une piscine?
Une piscine. Et je suis sur un plongeoir où je vais plonger dans quelques secondes.
Non.
Je voudrais remercier.
Avec les écouteurs.
Non, je vais enlever les écouteurs, je vais enlever mon survêtement et je vais plonger pour vous, grâce à Éric Dumoulin, qui est le maire de Chatou. Je suis à Chatou et Christophe Fraguez. Alors écoutez bien ce nom, Pascal, il a été au lycée avec vous à Nantes. C'est l'un de ses faits de gloire. Il m'a dit qu'il s'était très bien entendu à Nantes à l'époque où vous étiez lycéen. Donc Christophe Fraguez, qui est le directeur de cabinet de la mairie de Chatou, qui m'a permis de venir. Alors simplement pour vous dire que les Jeux Olympiques depuis 1904 pour les hommes, 1912 pour les femmes, pour le plongeon, deux épreuves différentes, plongeon 10 mètres et plongeon 3 mètres, les JO de Paris en 2024, c'est du 27 juillet au 10 août, au centre aquatique de Saint-Denis, à côté du Stade de France. Donc je suis dans la piscine de Chatou, je suis sur le plongeoir, je vais enlever mes écouteurs, donc je ne pourrai pas répondre à vos questions. Bon, voilà, j'enlève mes écouteurs. Je vais enlever mon survêtement, d'accord? Et je
Il va enlever les lunettes. Oh là 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 là.
Et là, mon Pascal.
Ouais. Alors, faut élargir un petit peu, forcément, parce que là, je suis. Oh, non, mais il va vraiment plonger. Oh là là. Non, mais attendez, là, ça c'est
combien,
pas.
Il est à 3 mètres.
Mais là, il est à 3. Il va vraiment plonger.
Puis,
ah ouais. Bon, il a en fait, il a sauté. Il a sauté. C'est un. Bon, non, mais c'est bien. Bah, remarquable, vraiment c'est bien. Je pense que Greg Louganis à côté, c'est rien du tout. Greg Louganis, c'était où? C'était à Los Angeles, non? Greg Louganis.
Los Angeles 84, ouais.
C'était formidable, Greg Louganis.
Un mec d'Hawaï.
Mais bien sûr. Et les Jeux Olympiques de Los Angeles sont peut-être les ceux qui me restent en tout cas en mémoire.
Un peu pour Carl Lewis.
Oui, bien sûr. Ça avait été extraordinaire, bien évidemment.
Barcelone, bon, aussi.
C'est vrai. Et c'est avec Marie-Jo Pérec. Est-ce que faut quand même qu'on revoie remonter? Est-ce que oh là là.
Faut qu'on revoie le tout.
Mais il a pas de slip de bain, si c'est non. Je crois que c'est avec son caleçon. Bah, c'est en fait. Bravo, bravo, Greg. Magnifique, Greg. Bravo, Greg Louganis. On va faire un montage de toutes les.
C'est consternant.
De toutes les. Comment?
Pourquoi vous montrez ça?
Attendez.
C'est un gimmick.
Chaque vendredi, vous nous.
Il y a un pari.
Chaque vendredi, Jacques nous fait découvrir un sport olympique.
Ah d'accord, c'est
pour ça. La semaine dernière, il était avec l'escrime. L'autre jour, il était avec la lutte.
Oui, d'accord.
Là, manifestement, vous aurez compris que c'était le plongeon.
Oui.
Qu'il ait une
attention, ça revient.
Voilà, il va remettre ses écouteurs. Donc, mais
depuis la Coupe du Monde.
Il est beau comme tout. Voilà, merci Jacques. Et là, à la fin, il va faire l'interview avec Nelson Montfort, ouais. Si vous voulez, qui va l'interroger. Il est très très beau. Bon, notre ami Philippe Labro, parce que notre ami Philippe Labro, c'est chaque samedi, c'est à 12h10 sur C8, l'essentiel chez Labro, qui recevra le réalisateur Teddy Lucie Modeste, qui est également professeur de français, qui raconte sa propre histoire dans son troisième film, Pas de vagues, qui va sortir la semaine prochaine avec François Civil. Moi, j'ai vu la bande-annonce et j'ai plutôt eu envie de voir ce film. Le film témoigne du silence parfois assourdissant qui entoure les professeurs lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Les autres invités seront Frédéric Taddeï, Thierry Frémont et Marion Rampal. Mais écoutons le réalisateur Teddy Lucie Modeste.
Le film montre qu'il est important qu'on arrive aujourd'hui à mettre en place à l'école, mais même aussi à l'extérieur, dans la société, des protocoles qui permettent non seulement de recueillir la parole des victimes, que ce soit des élèves ou des professeurs qui se disent harcelés, mais aussi des protocoles pour protéger les professeurs lorsqu'ils sont menacés de mort. Ouais. Et ça, c'est très important à mettre en place, oui.
Quand vous exercez votre métier de professeur maintenant, entre deux films, si j'ose dire, vous sentez une menace permanente ?
Non, je ne sens pas ça. En revanche, je sais qu'il m'arrive de penser à des collègues qui ont été menacés. Ouais. Le fait d'être passé par là me rend aussi davantage conscient de cette question. Et évidemment, comme tous les professeurs, j'ai été frappé d'effroi lorsque Samuel Paty et Dominique Bernard ont été assassinés. Je pense qu'on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences sur la psyché des professeurs après ces deux événements tragiques.
Pascal Danel était avec nous ce matin. C'est un livre, J'ai le mal de mer. Pascal Danel, ce livre, c'est à l'édition Auteur du Monde. On va voir quelques photos d'ailleurs en même temps que nous parlons. Mais puisque nous avons deux artistes à la table, vous allez à votre épouse, effectivement, belle, bellissime, baiser, écrivez-vous en légende. Vous dites, et ça peut concerner également Christophe Baratier, il faut une prise de conscience de son propre talent. Tout en n'ayant pas la grosse tête, cela constitue un exercice particulier, car entre sérénité et humilité, la voie est étroite. Et surtout, vous dites, il faut rester en permanence un véritable autodidacte pour un artiste.
Oh, peut-être que c'est exagéré, mais oui, il y a de ça, oui. Oui. Je pense qu'on a moins de barrières quand on est autodidacte, on fait ce qu'on veut. Bon, par exemple, mes musiciens souvent me reprochent de ne pas être en mesure. Vous savez, il y avait Tino Rossi, il ne chantait jamais en mesure. Alors son pianiste lui avait dit il faudrait quand même essayer de revoir la question. Mais comment il faut faire? Je lui ai donné un coup de pied dans le piano après l'intro, et là tu pars. Il n'y a pas de problème. Pomba, 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 donne un coup de pied. Et Tino se retourne et fait merci beaucoup.
Bon, vous êtes toujours un autodidacte, Christophe Baratier, vous êtes intact.
Oui, enfin, autodidacte, comment l'entend-on? Je suis né dans le milieu du cinéma, au milieu des acteurs, mon père était producteur, était assistant réalisateur, mon oncle, ma mère actrice, c'était très difficile d'y échapper. J'y ai échappé en grande partie, parce que je suis le seul à avoir fait de la musique, enfin de façon, on va dire, sérieuse. Mais voilà. En revanche, j'ai toujours du mal à dire, en tant qu'artiste, j'ai toujours du mal à même dire ça, parce que je trouve ça toujours très ridicule. Quoi. Ça me vient des leçons de modestie de mon oncle Jacques Perrin, qui disait, moi si quelqu'un dit je suis un artiste, il faut rigoler puis quitter la table. Voilà, donc je préfère dire que je fais des occupations artistiques. Voilà.
Il est quasiment 10h30, Somaïa Labidi nous rappelle les titres du jour.
Coup d'envoi de la 30e édition du SIDAction. Vous pouvez faire vos dons jusqu'à dimanche sur le site internet sidaction.org ou en envoyant don par SMS au 92 110, ou encore par téléphone en composant le 110. Audit alarmant sur la sécurité au sein des établissements scolaires. Selon Gabriel Attal, 500 d'entre eux nécessitent, je cite, un renforcement des dispositifs d'alerte et de sécurisation, quand 200 d'entre eux sont au cœur de points de deal. Et puis, soumis au vote obligatoire en Belgique, les jeunes de 16 et 17 ans auront l'obligation d'aller voter aux élections européennes du 9 juin prochain. La loi belge prévoyait déjà l'obligation de vote pour les électeurs majeurs.
Merci Somaïa. On va remercier également l'ami Jacques Vendroux. Jacques, comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que c'est...
D'une intensité incroyable. Intensité incroyable. J'ai sauté d'environ, 10 mètres. C'était l'un des derniers grands exploits de ma vie. Et j'étais très heureux de le faire pour vous, Pascal, et pour CNews. Voilà. Donc, c'était un grand moment. Et la semaine prochaine, on va encore trouver une initiation aux Jeux Olympiques de 2024. Voilà. Tous les vendredis. Voilà.
C'est bien, c'est bien évidemment. Là, j'ai l'impression que la piscine est plutôt vide, en revanche.
Alors, justement, ils ont eu la grande gentillesse, la mairie de Chatou, de vider la piscine, justement, pour mon plongeon.
Quoi, voilà, quoi, ils n'ont pas vidé la piscine, voilà. Si vous me permettez, parce que s'ils vident la piscine, c'est pas non plus, c'est pas non plus une bonne chose.
Non, non, mais ils ont demandé à certains gamins, eh bien, d'aller dans l'autre piscine pour me la libérer complètement. Et donc, ils ont laissé l'eau, évidemment, ils ont laissé l'eau, c'est mieux. C'est mieux quand même de plonger quand il y a de l'eau.
Bon, je vous remercie et puis demain soir on pourra vous écouter parce que l'équipe de France revient au football et va préparer son Euro.
Alors je vous permets puisque vous me branchez là-dessus demain soir 20h-21h le studio de légende avec sur Europe 1 bien sûr avec deux interviews exclusives Didier Deschamps sur 35 minutes et Adrien Rabiot sur 20 minutes, formidable avec mon ami Cyril Delamont-Hydry. Voilà, Europe 1, 20h-21h le studio des légendes.
Merci beaucoup Christophe Baratier, ça ressort le 10 avril évidemment, alors il ne peut pas avoir de suite malheureusement au choriste par définition, mais est-ce que vous avez imaginé de replonger dans cette atmosphère d'antan et de jouer cette carte de la nostalgie qui avait bouleversé le pays?
Oui. C'était pas pour moi une nostalgie de c'était mieux avant, de choses comme ça, c'était plutôt une nostalgie de mon enfance. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt ça qui joue. Je crois que j'ai fait 35 pays avec ce film, et partout je voyais, que ce soit de Singapour à Hong Kong, en passant par Cuba, je voyais les mêmes réactions au même moment. Ce qui veut dire qu'il y a une chose qui, quelle que soit notre race, notre culture et notre classe sociale, il y a une chose qu'on partage tous, c'est les joies et les douleurs de l'enfance. C'est totalement universel, et donc c'est pour ça que ce film provoquait les mêmes rires et les mêmes émotions sur autant de publics différents.
Et ce qui est toujours drôle, c'est de voir comment un film parfois est produit au départ. Il avait été refusé par TF1, oui. Qui n'y croyait pas. TF1 tout puissant, oui, mais... en 2004. Pourquoi ? Parce que c'était un film qui regardait dans le rétroviseur.
Et puis c'était aussi mon premier film. Je dois avouer que sans Jacques Perrin, la ténacité de Jacques Perrin, et puis aussi l'accord de Gérard Jugnot, voilà. Et puis après, évidemment, tout le monde... vous savez, la première fois, personne ne vous croit. Après, le seul problème qu'on peut rencontrer, c'est pas de pression, mais tout le monde nous croit. Je pourrais, avec le bottin de téléphone, on me le produirait, quoi. Donc, ouais. C'est pas de très bonne
idée. Non, petit témoignage personnel. Il y a 20 ans, votre film a eu un impact formidable dans ma propre famille, puisque mon frère s'est mis à chanter, est rentré dans une chorale. Mon père a pris la direction de cette chorale. Mes deux sœurs se sont mises à chanter. Mon frère a fait du chant pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est un passionné semi-professionnel. La chorale qu'a repris mon père, il y avait une quinzaine de chanteurs. Aujourd'hui, il y en a presque une centaine. Donc, ça a eu un vrai effet, je pense, pour redonner aussi le goût du chant à toute une génération et notamment de jeunes. C'est un goût qui est... Le chant choral avait peut-être un peu disparu dans notre pays. Vous avez redonné un élan. Donc rien que pour ça, bravo et merci.
Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci à Laurent Pratt qui était à la réalisation. Merci à David Tonnelet qui était à la vision, à Guillaume Marceau qui était au son. Merci à tous ceux qui, cette semaine, étaient présents à la programmation. Nicolas Nissim, Magdalena Derwisch, Lino Vettese et Louis Lallemand, et merci à Marine Lançon, bien sûr, à Félix Perola. Et puis, merci à Pascal Danel. Vous êtes toujours sur scène, monsieur Danel?
Oui, notamment dimanche.
Vous serez où?
Après, en Belgique, et puis après, je pars à Sorgues.
À Sorgues, dans le sud de la France.
Voilà.
Et combien de galas vous faites régulièrement?
On fait beaucoup moins qu'avant, mais on va dire entre un et deux par mois, quand même.
Et le public est intact pour chanter toujours ces deux chansons?
Ce qui reste du public.
Bon, on peut se quitter en musique
et
alors.
Et quand je rentre en scène, je leur dis, mais vous m'avez l'air en forme.
On va se quitter avec la plage romantique. On peut peut-être chanter tous ensemble.
Oui.
Parce que c'est vendredi. Laisse ça. Remontez haut. Hein. La plage romantique.
Qui de... ce soir.
J'ai envie de t'aimer.
60 ans la chanson.
Ouais. Eh ben. 1964?
Ben 65.
Ah non, pas 65 ans. Allez, 65.
Oui.
Allez, 65. Ouais, d'accord.
C'était à la même époque Adieu Joli Candy, non ou pas?
Non, Adieu Joli Candy, c'est 67 ou 68. Ah ouais. Adieu Joli Candy.
C'est ce que des mêmes rythmes, oui. C'est des rythmes de tout.
Merci, hein, vraiment, merci beaucoup. Jean-Marc Morandini dans une seconde. À lundi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com